servir motivé par l'amour. Et c'est ça le titre de ma prédication de ce matin. Servir motivé par l'amour. Il sera plus question de l'amour que, évidemment, du service, mais derrière, il y a cette idée de service qui est derrière la question de l'amour. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu es à nous. Et nous voulons être à toi. Il est vrai que nous ne pourrons pas faire tout ce que toi tu fais pour nous. Nous ne pourrons jamais rivaliser avec ce que tu fais. Parce que ce que tu fais est tout simplement époustouflant. Mais nous voulons, avec le peu que nous sommes, le peu que nous avons, le peu que nous savons faire, nous voulons, Seigneur, faire le mieux possible pour toi. Être pour toi comme tu es pour nous durant toute cette année. Accorde-nous cette grâce-là et éclaire-nous à travers ta parole au nom de Jésus. Amen. Pour pouvoir m'appuyer sur ce thème, servir motivé par l'amour, je voudrais vous proposer une série de textes, mais le texte de base, ça va être Romains au chapitre 9, au chapitre 12, nous allons lire les versets 9 au verset 13. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. J'aimerais aborder ce petit partage en trois points. Peut-être d'abord, premier point, éclairer ce que l'on veut dire ici par amour. C'est quoi, finalement, comment comprendre le texte ici en rapport avec l'amour? Et puis, deuxième point, j'aimerais peut-être faire le rapport entre le fait d'aimer et de servir. Servir par amour, en quelque sorte. Et puis, on regardera les cas pratiques. Donc, c'est le troisième point. Alors, vous constatez qu'au verset 9, on ne donne pas la définition de l'amour. On ne dit pas l'amour, c'est tac, 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 tac. L'amour, c'est X, Y, Z. Non, on ne donne pas la définition. Tout de suite, d'entrée de jeu, on dit, quelle que soit votre façon de comprendre l'amour, l'amour doit être sans hypocrisie. L'amour doit être sans masque. On ne doit pas jouer à l'amour. L'amour, ce n'est pas une comédie. L'amour, ce n'est pas quelque chose dont on fait semblant. L'amour doit être vrai et sincère. On ne fait pas comme si. Quand on aime, on doit aimer vraiment. Cela ne veut pas dire que, ça, comprenez bien, ça ne veut pas dire que aimer vraiment, aimer pour du vrai, ça ne veut pas dire montrer qu'on aime vraiment quelqu'un et quand on ne l'aime pas, montrer vraiment qu'on ne l'aime pas. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Okay? Ça veut dire que tant bien pour les gens que je n'aime pas, que pour les gens que j'aime, il m'est demandé d'être vrai, de ne pas avoir des faux semblants, de ne pas feindre d'aimer, mais d'aimer vraiment. L'amour, ça n'est pas de la comédie, c'est quelque chose de vrai. Qu'on ait des affinités ou pas, vous savez du reste hein, que pour Dieu, on n'aime pas que les gens que l'on aime, avec lesquels on a des affinités. Pour Dieu, on doit aimer tout le monde, y compris nos ennemis. Aimer, c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes, de l'intérieur. On doit être vrai et sincère dans notre façon d'aimer. Voyez-vous, déjà ici, on voit cette idée que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur de moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un me fait du bien que je dois l'aimer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une une belle apparence physique pour moi que je dois l'aimer. Soit ce quelqu'un dit des trucs qui me plaisent, que je dois l'aimer. Aimer doit venir de moi, de l'intérieur de moi. C'est une volonté. Aimer, ça n'a pas toujours qu'à voir avec les sentiments. Ça a à voir avec le devoir, la volonté. Je veux aimer. Je veux aimer mon prochain. Peu importe qui il est. Noir, blanc, rouge, jaune, vert. Petit, grand. Femme, homme, je sais pas moi, maintenant on commence à nous faire des trucs bizarres là avec les femmes, hommes et autres choses aussi avec. Et tout ça, j'aime. Ennemi ou ami, étranger ou pas, j'aime. L'amour, c'est quelque chose qui doit venir de moi. C'est moi qui dois vouloir aimer. C'est moi qui dois rechercher d'exprimer cet amour. Et dans ce texte, l'amour n'est pas seulement quelque chose qui doit être vrai et sincère, c'est-à-dire que ça doit refléter vraiment l'état de mon cœur. Ça doit vraiment refléter ma volonté de le faire. Oui, ça peut arriver que je trouve des gens détestables et qu'au fond de moi, je les déteste profondément. Mais si j'ai la volonté de les aimer, je dois réprimer cette force en moi qui les fait haïr. Je dois écraser les raisons pour lesquelles je ne peux pas aimer ces gens-là. Je dois pouvoir les aimer. Regardez, la seule chose pour laquelle le Seigneur nous invite à avoir de la haine, c'est pour le mal. Le mal sous toutes ses formes. Ça, on peut haïr. Mais les hommes, les frères, les humains, les proches, non. Le vrai amour, c'est pas seulement un amour sincère, un amour vrai, c'est aussi un amour qui est fortement attaché au bien de l'autre. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Vouloir le bien de l'autre et détester le mal, détester de lui faire du mal, rejeter toute idée de lui faire du mal. Vouloir le bien de l'autre pour l'autre. Pas pour moi, pour me satisfaire, pour me donner bonne figure, bonne impression, pour soulager ma conscience. Mais non, aimer l'autre, pour sa valeur, pour ses intérêts, pour son bien. Cet amour-là, c'est un amour tourné vers les autres. C'est un amour altruiste. C'est l'amour qu'une mère a à l'égard de son enfant, parce qu'une mère, elle est prête à tout sacrifier pour son enfant. C'est l'amour, agape, comme l'amour que Dieu a pour les humains, qui donne et qui ne regrette pas ce qu'il a donné. J'aime bien ce texte de Proverbe qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne regrette jamais le bien qu'il a fait. Il fait le bien, il donne, il est content, il ne le regrette pas, même si la personne ne le mérite pas, même si la personne agit mal par rapport à ce don. Dieu ne le regrette pas. Mes amis, est-ce que vous voyez que l'exigence d'amour dans la Bible est quand même quelque chose de fantastique? C'est bien loin de notre façon à nous de faire, n'est-ce pas? C'est bien loin de notre standard d'amour. Voyez? Dieu a mis la barre très haut pour nous. Et il faut qu'on avouons-le, on est souvent loin du compte. Parce que souvent nous feignons d'aimer les autres. Mon patron qui nous persécute au boulot, franchement, vous pensez que je vais l'aimer? Hein? Les copains qui me font des coups bas, vous pensez que je vais les aimer? Et puis, c'est pas tout. Il y a des gens vraiment dont le visage ne me revient pas. Hein? Dès que je vois ce gars-là, j'ai envie de lui donner un coup de poing. Hein? voyez, nous feignons d'aimer, alors nous faisons semblant, ah, bonjour, mais en réalité, on n'aime pas. Nous faisons semblant et nous faisons parfois du mal aux autres au nom de l'amour. On croit qu'on lui fait du bien. Parfois, regardez dans les familles, les maltraitances, les abus, parfois c'est au nom de l'amour. Tu imposes des règles trop dures à l'enfant au nom de l'amour. On impose aux autres, on impose parfois à son conjoint, parfois à son entourage, des choses dures, parce que simplement, par amour, mais on fait du mal. On ne fait pas toujours du bien aux gens. Nous ne voulons pas toujours du bien aux gens, même quand on les aime. Même quand on les aime. Et ce qui est encore plus grave, c'est que nous n'aimons pas les gens pour eux, pour ce qu'ils sont. Nous aimons les gens par rapport à nos critères à nous. De sorte que quand je suis avec quelqu'un, je veux que cette personne soit transformée selon ma convenance pour que je puisse l'aimer. Si elle n'est pas à ma convenance, alors il y aura la guerre. Tu es toujours comme ça. Tu changeras jamais. Ça va pas chez toi. C'est toujours mauvais ça chez toi. Parce que je veux que cette personne, quand je dis rigole, rigole pas. On veut que la personne soit comme je veux. Mais les gens sont comme ils sont. Aimons-les comme ils sont. Avec leurs qualités et leurs défauts. Parce que moi aussi j'ai des qualités et des défauts. Et Dieu merci, il y a des gens qui m'aiment comme ça. Comprenez? Nous sommes loin du compte, mes amis. Et nous devons demander à Dieu de nous aider à ce que nous puissions aimer comme lui il aime. Nous puissions le regarder comme lui nous regarde. Et voyez-vous, ça concerne l'amour en général, avec tous les gens que je rencontre. Et c'est vrai, en tant que chrétien, j'ai beaucoup de risques, n'est-ce pas, de pouvoir me rentrer dedans avec les gens du monde, puisqu'ils n'ont pas le même système de valeurs que moi. Oui, c'est vrai, non? Oui, mais c'est pas vrai toujours. Parce que je peux faire la même chose avec mes frères chrétiens aussi. Alors, que dit le texte? Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Alors, on rentre dans la dimension fraternelle, dans la dimension des enfants de Dieu, frères et sœurs. On a quitté la sphère générale qui nous concerne toujours, hein? Maintenant, on applique ça dans la sphère des frères et sœurs en Christ. Que dit le texte? Le texte nous invite à manifester de l'affection mutuelle. Alors, je ne sais pas ce que vous savez de mot affection. Je ne sais pas ce que vous savez de ce qu'être affectueux. Vous savez, aimer sans montrer de l'affection, c'est dur, hein? Imaginez, vous avez quelqu'un qui vous aime et qui reste froid avec vous. Georges! Attends, je vais prendre mon air le plus sérieux, comme ça, ça marche pas. Tout Georges, je t'aime. Mais alors, je le dis le plus froidement, le plus... Vous savez, les gens vont dire, oui, ils m'aiment, peut-être, peut-être. Vous connaissez là, les gens qui font, ils m'aiment peut-être, à la folie, et des choses comme ça, là. Eh ben oui, ils m'aiment, peut-être, peut-être. L'amour n'est véritable que quand il se montre avec de l'affection, avec des gestes affectueux, avec des mots affectueux, des mots gentils, des compliments, des gestes affectueux, prendre quelqu'un dans ses bras, offrir des choses, consacrer du temps de qualité, rendre service avec joie et gratuitement, manifester que on est heureux, on est heureux d'avoir cette compagnie, cette présence. L'affection est quelque chose qui manque énormément dans nos sociétés. Nous sommes devenus très froids. Nous sommes devenus très distants avec les gens. Pourquoi? Parce que notre façon d'aimer est une façon où nous aimons, non pas nous aimons l'autre pour l'autre, mais nous aimons l'autre comme nous pensons que l'autre doit, enfin, comme il doit nous aimer, en quelque sorte. Manifester de l'affection, Je me rends compte dans nos églises, par exemple, c'est rare d'entendre les gens se dire des mots gentils. Quand tu commences, on te dit « Ah, flatteur !» Flatteur, tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Toi, tu es en train de me flatter, là. Quand on essaye, les gens distancent. Mais comment voulez-vous, si on n'a pas, on ne manifeste pas de l'affection, comment est-ce que l'amour peut être vraiment alimenté, nourri, amené à ce qu'elle soit dans son expression? L'amour fraternel exige non seulement que on puisse manifester de l'affection les uns les autres par l'accueil, par la gentillesse, par la bonne disponibilité, etc. Mais ce texte dit aussi que l'amour fraternel exige aussi que l'on soit le premier pour exprimer les prévenances réciproques. C'est quoi les prévenances? À quoi on fait allusion ici? L'amour doit pouvoir m'emmener à montrer l'estime que j'ai pour les autres. Montrer que je les estime, que je ne les aime pas simplement, par ce qu'ils, comment ils sont habillés ou je sais pas moi, mais que vraiment je trouve des qualités chez eux, je cherche des qualités chez eux et j'aime ces qualités-là et je l'exprime, je montre de l'estime, de la sympathie, de la valeur que les gens là que la personne en face de moi représente pour moi. Pour commencer à aimer, il faut commencer par trouver des qualités chez l'autre. Et l'autre a toujours des qualités. Même si c'est une personne qui est complètement sauvage, elle a quand même encore des qualités. Même dans sa sauvagerie, sûrement qu'on trouvera encore des qualités. L'estime. Être le premier à manifester l'estime qu'on a à l'égard des autres. Imaginez-vous si nous sommes tous comme cela dans la communauté, dans l'église. Si nous sommes tous comme ça, que nous sommes tous de ceux qui exprimons mutuellement l'affection par l'estime. Ça va faire que personne ne sera privé. Personne ne se sentira pas du tout estimé. Tout le monde se sentira estimé parce que quelqu'un lui aura dit quand même cela. L'estime réciproque. Quand je te montre de l'estime, tu me montres aussi de l'estime. Et vous savez, les prévenances, l'orientation vers les prévenances est une belle orientation parce que ça veut dire que l'estime vient avec les petites choses de la vie comme la courtoisie, la politesse, comme le savoir-vivre, le respect de l'autre. Parfois, nous manquons tellement cela, n'est-ce pas? Parfois, la politesse disparaît au milieu de nous. On se parle durement, sans aucun égard. Parfois, la simple politesse, bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir, etc., ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Dans le temps, il y avait les gens, les messieurs se saluaient avec le chapeau. De nos jours, ce serait plutôt surprenant. Un gars qui ferait ça dans la rue, bonjour madame, en soulevant son chapeau, il dira, il est de quel siècle lui? C'est un visiteur lui, il vient de l'autre siècle, il est tombé par hasard dans notre coin ici. On n'a plus cela, mes frères. Et pourtant, c'est ce que ce texte réclame. Que l'amour soit un amour plein d'affection. Un amour où l'on se montre des prévenances. On est les premiers à montrer l'estime, le respect, la considération de l'autre. Et on le fait pour l'autre. Je ne calcule pas en disant, je fais ça parce que je vais être très gentil avec Paul. Je dis, Paul, t'es beau, t'es vraiment chouette gars. Parce que après, j'irai demander à Paul de l'argent. C'est pas ça. C'est pas un calcul avec quelque chose derrière la tête. C'est vraiment pour la personne. Et c'est là que la vérité est importante. Parce que quand je vais dire à Paul qu'il est beau, je vais pas lui dire, si je dis à Paul qu'il est beau et que je calcule que c'est parce qu'après je vais lui demander de l'argent, c'est pas vrai, hein. Il est pas beau, hein. J'ai menti, hein. Oui ou non? J'ai menti. Parce que mon calcul à moi, c'était de le flatter afin de pouvoir obtenir quelque chose de lui. Là, je mens. Donc nous devons analyser nos propres motivations dans notre façon d'aimer les gens. Nous devons analyser chaque fois et établir cette frontière sincère entre Est-ce que je le fais pour moi, pour obtenir quelque chose, pour formater la chose selon moi, ou bien je le fais pour l'autre, pour véritablement son épanouissement, son bien, son bonheur? Si nous pouvons faire cela, le Seigneur ne sera que glorifié. Peut-être que, avant d'aller plus loin, la question c'est, où en es-tu toi avec tout cela? Est-ce que tu aimes de cette façon-là? Si tu as des doutes sur le fait de le faire, sache que c'est notre marque de fabrique. C'est notre appellation contrôlée. C'est comme ça que Dieu veut que nous vivions et que nous fassions. Je vais prendre pour preuve le texte de Matthieu, chapitre 23, le verset 27 à 29. Oh. C'est quoi, chapitre 23? Wow! C'est sûrement pas ça. Tu l'enlèves vite fait parce que c'est pas le bon. J'ai dû faire une erreur de transcription. Je ne vous parle pas de malheur hypocrite, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Verset 23. Bon, je le retire. En fait, c'est le texte où le disciple, un pharisien, demande à Jésus quel est le plus grand des commandements. Et lui, il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second qui lui est attaché, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est cela le commandement. Comment tu dis? Oh mon grand, tu es gentil toi. C'est le chapitre 22. Et pourquoi j'ai écrit 23 moi? C'est toujours Matthieu 22. Et t'as cherché Matthieu? C'est parce que tu portes le nom de Matthieu que tu as fait ça? Ou parce que tu te portes le nom de Matthieu que tu connais tout Matthieu par cœur? Bon, on va poursuivre. Et il y a l'autre, oui, tu as trouvé? Toujours les mêmes, hein? Ah ben alors, t'as fait nos autres versions, toi. Ok, ça va. Je le suis, je le suis. 22, 34. 36, mais non. 34 ou 36? Ah. En Matthieu. Bien. Je relirai la prochaine fois mes références. C'est honteux. À partir, voilà, c'est ça. Hein. Ayant appris, vous êtes sûr? Ah, mais il faut continuer alors. Bon, c'est pas grave. On va pas se disputer là-dessus. Vous avez compris le principe. Nous allons continuer, sinon il faut plus bas encore. Mais c'est pas grave. Je pense que je propose qu'on continue. Jaco, tu me mets le suivant, le verset Jean chapitre 13, le verset 35. Là, je suis un peu plus sûr de moi parce que celui-là, je le connais par cœur. Je m'appelle pas Jean, hein, mais enfin, je le connais par cœur quand même. Jean 35. Voilà. Regardez, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. C'est pour ça que je disais que c'est une marque de fabrique. C'est notre appellation contrôlée. C'est ce que nous sommes. Les gens qui avons de l'amour les uns pour les autres. Et donc, développer l'amour, c'est important. Ça fait partie de ce que nous sommes. C'est le commandement de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est l'ordre du Seigneur. C'est notre façon de manifester notre label, en quelque sorte, par lequel le monde peut nous reconnaître. L'amour que nous avons les uns à l'égard des autres. Veillons donc sur cela. Deuxième point, nous allons passer au point servir, aimer et servir. Servir par amour. On revient sur notre texte de Jean, de Romains, au chapitre. Vous avez remarqué que dans le texte de Romains, Il est écrit donc au verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ce texte donc nous recommande d'être actifs et non paresseux. Et plus que simplement actifs, le mot zèle va plus loin que simplement être actif au sens de quelqu'un qui fait les choses. C'est vraiment actif au sens de quelqu'un qui est vraiment chevronné dans l'activité, qui le fait régulièrement, qui est versé là-dedans, qui devient même spécialiste là-dedans. C'est ce que la parole de Dieu nous demande, c'est ce que le Seigneur attend de nous, d'être des gens actifs. Et la recette pour cela, c'est évidemment la suite qui dit « soyez ardents, soyez fervents d'esprit ». Avoir de l'ardeur dans l'esprit. Il n'est pas possible de faire du bien aux autres. Il n'est pas possible de servir Dieu sans être spirituellement bien connecté avec Dieu, sans avoir la part du Saint-Esprit qui nous accompagne dans ce que nous faisons. C'est pour cela que quand nous nous engageons à servir, c'est Dieu que nous voulons servir. C'est à Dieu qu'on veut manifester cet amour. Et donc nous avons à considérer cet engagement-là, à servir ardemment, servir avec ardeur. Et servir ici, bien entendu, c'est servir d'abord Dieu. Et les autres, nous les servons parce que nous voulons servir Dieu. Nous servons Dieu donc à travers les autres. Et je n'ai pas de meilleure illustration pour pouvoir vous rendre compte de cette relation entre le fait d'aimer et de servir. Je crois que la meilleure illustration, c'est justement un texte dans la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même. Et nous allons revenir à Jean, au chapitre 13. Oui, verset 1 maintenant. Chouette, hein? Alors, Jean chapitre 13, du verset 1 au verset 9, vous allez voir vraiment cette relation entre aimer et servir, servir par amour. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et nous allons poursuivre avec le verset 12 au verset 17. « Après leur avoir lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, » et ça c'est très important, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Quel est le rapport entre aimer et servir? Jésus fait ça parce qu'il voulait mettre au comble son amour. Sa motivation pour faire ça, c'était son amour, son grand amour pour ses disciples. Servir n'a de sens véritable en tant que chrétien que si c'est motivé par l'amour. C'est ce que le Seigneur nous montre comme exemple. Toute chose que je fais pour mes frères, ça va de la plus petite chose que je fais aux très grandes choses que je fais. La raison pour laquelle je dois le faire, c'est par amour. C'est par amour. D'abord par amour pour Dieu et par amour pour les frères et sœurs. Et c'est ce que Jésus fait. Et c'est un texte qui me touche beaucoup parce que c'est un grand Dieu qui se met au service de petits pécheurs bien misérables. Mais il va faire encore plus, vous savez, parce que après la Pâque, il va être crucifié, il va mourir pour les pécheurs. Alors, on peut comprendre avec Jésus quand il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il le prouve. Alors, peut-être ce texte peut parler mieux que tout ce que je peux dire dans la notion de servir. Servons Dieu à travers les gens qui sont autour de nous, à travers nos frères et sœurs en Christ, à travers notre église locale. Faisons-le avec comme seule motivation l'amour, le vrai, celui qui est sans hypocrisie, sans masque, celui qui veut le bien de l'autre, celui qui déteste faire le mal à l'autre, l'amour qui fait le premier pas, qui montre à travers la courtoisie, la politesse, l'estime, le respect, la considération, qui montre que l'autre a de la valeur pour moi, pour moi. L'amour qui n'exclut personne, qui aime tous de la même façon. L'amour qui vient du cœur, de mon cœur, de ma volonté d'aimer. Pas des circonstances extérieures qui me poussent à aimer, mais qui vient de moi. C'est moi qui veux le faire. C'est moi qui le fais chaque fois. Et si je ne sais pas le faire, la Bible dit que l'amour de Dieu est dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Si on ne sait pas le faire, alors on prie, Seigneur, donne-moi d'être rempli de cet amour-là. Rends possible cet amour dans ma vie pour que les autres en bénéficient et qu'ainsi mon service pour les autres soit un service à ta plus grande gloire. Dernier point, et on va aller brièvement tout ça. Ce texte montre aussi, illustre aussi, donc on revient à Romains. Je te fais balader, hein. Ce texte, nous allons prendre donc les deux derniers versets, illustre très bien aussi un peu quels sont les différents services. Et j'ai quelque chose à dire là-dessus. Regardez, verset 12, hein, il y a la dimension de l'espérance qui doit motiver notre service et notre amour. Savoir qu'un jour, nous serons au ciel. Que toutes les souffrances d'aujourd'hui ne font pas le poids par rapport à tout ce qu'on va avoir comme gloire en haut, au ciel. Mais en même temps, ça veut dire que l'amour peut être aussi, quand j'aime, je peux aussi souffrir. Je peux aussi souffrir. Quels sont les deux domaines où il est question de service? Pourvoyer aux besoins des saints et puis exercer l'hospitalité. Voyez-vous, mes frères, le service à l'égard de mes frères et sœurs doit être créatif. À l'époque, pour les chrétiens juifs de l'époque, ces deux domaines étaient très importants. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens, s'ils n'avaient pas leurs frères dans le besoin, ils mouraient, ils souffraient. Parce que les chrétiens étaient rejetés. Ils étaient rejetés à cause des persécutions. Donc, ils ne pouvaient pas avoir d'autre aide que l'aide de leurs frères. Il n'y avait pas d'autre choix. Et donc, ils devaient s'entraider. Parce que c'était ça où ils mouraient. L'hospitalité, même chose. Quand on voyageait, les gens qui avaient d'autres divinités pouvaient s'arrêter à des auberges. Et là, ils pouvaient se reposer, etc. Mais les chrétiens, quand ils se déplaçaient, devaient repérer les maisons des chrétiens là où ils allaient. Ils arrivaient dans une ville, ils demandaient après des maisons de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui se retrouve dans une auberge et qu'on découvre que c'est un chrétien, il est foutu, hein. On va le lapider, on va le faire souffrir, il va beaucoup souffrir. Donc les chrétiens, au lieu d'aller dans les hôtels, dans les auberges, eh ben, ils faisaient leur parcours en allant dans les maisons des chrétiens où ils étaient accueillis. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient avancer et faire leur voyage. Vous voyez, les chrétiens de cette époque au premier siècle ont dû être créatifs. Ils ont créé, ils ont mis en œuvre des services pour répondre aux besoins de cette époque-là. Alors soyons aussi créatifs pour notre époque, pour rendre aussi service à nos frères et sœurs en essayant d'être, en trouvant effectivement les besoins là où ils sont et en y répondant. Et donc, si nous nous engageons à cela, si nous voulons véritablement être de ces chrétiens-là, alors cette année pourra être une année encore bénie. Donnons-nous un peu cet engagement-là cette année, être motivé par l'amour dans tout ce que je fais, vouloir le faire par amour. Motivons-nous par ce désir d'aimer vraiment nos frères et sœurs de l'Église et les gens autour de nous, tout simplement, même les gens du monde. Donnons-nous cette perspective-là de les aimer. Et si nous ne savons pas, nous avons un allié, Dieu, il va nous aider. Alors je vais terminer juste avec quelques mots en disant que première chose que je vois, c'est que aimer, c'est plus fort que d'être aimé. Apprendre à aimer et non pas à toujours attendre d'être aimé. Aimer selon Christ. Jésus n'a pas regardé qui est son ami, qui est son ennemi, qui est sage, qui ne l'est pas. Il est mort pour tous les pécheurs. Il n'a pas regardé que celui-là, c'est un criminel, mais celui-là, c'est un gentil, lui. Mais non, il est mort pour tous. Aimer comme Jésus. Et peut-être, si tu veux vraiment que ton service soit réussi et béni, si tu veux vraiment que tu puisses voir du fruit de ton travail dans ta vie chrétienne, alors fais tout pour la gloire de Dieu et fais-le avec l'amour. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Elle m'éclaire, elle nous éclaire. Aide-moi, aide-nous à vivre de cet amour que toi tu nous exiges. Aide-nous à nous élever au standard que toi tu as établi pour l'amour véritable. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.